On fait un tour en Haïti dans quelques instants avec Godson Pierre, directeur du site Alter Press. Alors que la situation est toujours plus tendue sur place, les gangs s'en sont pris hier au quartier d'ordinaire paisible de Pétionville. Côté politique, Marine de la Moissonnière nous dira dans la revue de presse que la CARICOM a désormais 6 des 7 noms qui composeront le conseil présidentiel de transition. Notre dossier du jour au Brésil, où les habitantes de Rio de Janeiro s'offrent de nouvelles techniques de bronzage. Fini le bikini classique pour parfaire leur bronzage. Elles sont passées au scotch noir isolant, tout pour une démarcation plus nette. Et puis comme d'habitude, le journal des Outre-mer avec Benoît Ferrand. L'actualité sociale, Benoît, est chargée en Guyane, notamment avec la mobilisation des personnels de la fonction publique.
Et nous irons en Martinique et en Guyane pour suivre la mobilisation des enseignants et des infirmiers libéraux. À tout à l'heure, Nemo.
À tout à l'heure.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes en ligne avec Godson Pierre, directeur d'Alter Press. Bonjour.
Bonjour, Nemo.
À la une sur votre site ce mardi, les violences des gangs qui se poursuivent à Port-au-Prince. Ce lundi, les groupes armés ont attaqué la Banque centrale.
Oui, cette attaque s'est soldée par la mort de plusieurs bandits. Ils ont rencontré la résistance des agents de sécurité de la banque aidée de la police. Il n'y a pas encore de précision sur le nombre exact de victimes. Aucune version officielle des faits n'a pour le moment pas été rendue disponible depuis le lancement de leur offensive sur la capitale le 29 février dernier. Eh bien, les gangs coalisés n'ont pas cessé de cibler les institutions stratégiques du pays parmi de multiples exactions commises affectant grandement, bien évidemment, la population. Pas plus tard que le 18 mars hier, donc, la direction de l'électricité d'Haïti, la Compagnie nationale d'électricité, a fait savoir que 4 sous-stations de Port-au-Prince ainsi que la centrale de Vareux en périphérie nord ont été détruites et rendues totalement dysfonctionnelles lors d'attaques de gangs armés.
Et ces gangs, Godson, vous venez de le dire, maintiennent donc leur pression sur la capitale dont ils contrôlent environ 80% du territoire. Hier, ils ont également attaqué des résidences dans les quartiers aisés de Pétionville.
C'est une journée difficile que les riverains de Pétionville et ses environs ont vécu hier. Plusieurs corps sans vie ont été découverts de très tôt avant l'assaut des bandits. Les circonstances dans lesquelles sont mortes par balles ces personnes demeurent inconnues. Des alertes ont été lancées à propos de plusieurs résidences attaquées par les gangs armés encagoulés à La Boule, Boutillier et Thomassin sur les hauteurs de Pétionville. Ces bandits armés ont pu même pénétrer dans des résidences à La Boule 12 où beaucoup de détonations ont été entendues. Une intensification des actes de violence survenue au moment de la mise en place d'un conseil présidentiel de transition.
Et parallèlement sur le plan politique, les négociations en vue de la mise en place d'un conseil présidentiel censé désigner un nouveau Premier ministre après la démission d'Ariel Henry se poursuivent. L'Église catholique d'Haïti a décidé de prendre ses distances avec cette nouvelle instance.
La conférence des évêques catholiques rappelle en effet n'avoir mandaté personne pour représenter l'Église catholique au sein du conseil présidentiel envisagé de transition, ni d'aucune autre structure de gouvernement pour pouvoir garder la distance morale, écrivent les évêques. Distance morale qui permettra à la conférence épiscopale de remplir sa mission prophétique. Elle dit souhaiter néanmoins que les pourparlers en cours débouchent sur une véritable entente patriotique inclusive et durable dans l'intérêt de tout le peuple haïtien. On apprend en effet que le conseil serait pratiquement complété à présent.
Et tout ça, c'est à lire et à retrouver sur le site d'Alter Press. Merci Godson Pierre. Et ce conseil présidentiel de transition en Haïti, on vient d'en parler avec Godson Pierre. Les choses ont un petit peu avancé. Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
Comme le rapporte la presse haïtienne, Marine, la CARICOM a désormais 6 des 7 noms.
Oui, comme l'explique le Nouvelliste, après plusieurs jours de tractations et de négociations, les différentes branches de l'accord du 21 décembre se sont finalement mises d'accord pour désigner l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles pour être leur représentant. La CARICOM a donc désormais le casting complet. Le conseil présidentiel de transition ne sera constitué que de 6 personnes contre 7 prévues au départ. Comme le rappelle le Nouvelliste, le parti Piti-Dessalines s'est retiré du processus car il insistait pour avoir 3 représentants au sein de ce conseil.
Et alors, que va-t-il se passer désormais ?
Eh bien, c'est le grand flou, avoue le Nouvelliste. Les acteurs qui ont désigné des noms au conseil présidentiel de transition n'ont pas d'informations sur comment la CARICOM va procéder pour rendre fonctionnel le conseil présidentiel, explique le journal. Mais selon Radio Télémétronome, ce conseil, eh bien, il devrait être mis en place d'ici la fin de cette semaine.
Et en ce qui concerne l'ancien Premier ministre, désormais, Ariel Henry ?
Eh bien, toujours dans les colonnes du Nouvelliste, l'ancien sénateur Sorel Jacinthe, membre de l'accord du 21 décembre, explique que son groupe est tous les jours en contact avec le Premier ministre démissionnaire. Il est toujours à Porto Rico et il va bien, a-t-il dit au journal. En revanche, personne ne sait s'il compte rentrer en Haïti.
Aux États-Unis, désormais, Donald Trump, en mauvaise posture, l'ancien président ne peut pas fournir à la justice new-yorkaise la garantie qu'il paiera le demi-million de dollars d'amende, amende à laquelle il a été condamné pour fraude financière au sein de son empire immobilier.
Oui, comme le raconte le New York Times, Donald Trump a sollicité 30 compagnies d'assurance pour obtenir l'argent que lui réclame la justice et pas une n'a accepté. Trouver une société qui fournisse une caution judiciaire aussi importante est quasiment impossible, ont expliqué les avocats de Donald Trump, rapporte le Washington Post. L'ancien président se vante d'avoir des milliards, écrit le New York Times, mais sa richesse provient en grande partie de la valeur de ses biens immobiliers que les sociétés d'assurance acceptent rarement comme garantie, analyse encore le quotidien. D'après ses calculs, Donald Trump n'a en cash que 350 millions de dollars. On est bien loin de ce dont il a besoin.
L'ancien président candidat, on le rappelle, au scrutin de novembre, a jusqu'au 25 mars pour réunir cette somme. Que se passera-t-il, Marine, s'il échoue ?
Eh bien, si la juge ne lui accorde pas un délai pour payer, alors l'État pourra saisir ses comptes en banque ou ses propriétés, à moins, explique le New York Times, qu'une cour d'appel ne vienne à son secours. Autre option pour le milliardaire, selon le quotidien, vendre rapidement l'un de ses biens ou demander de l'aide à l'un de ses riches soutiens, ou bien encore déclarer en faillite les sociétés concernées par cette décision de justice. Un choix politique risqué lors d'une course à la présidentielle, juge toutefois le journal, qui ne croit pas trop à cette solution. En tout cas, quelle que soit l'option retenue, Donald Trump risque de se retrouver prochainement face à une crise financière, estime le New York Times.
Merci Marine, on vous retrouve dans un instant pour la suite de cette revue de presse.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
L'Argentine J+100 après l'arrivée de Javier Milei à la tête du pays, l'heure de tirer un premier bilan de ces 3 mois. Ces réformes ultralibérales ont connu de nombreux revers au Parlement, où il est ultra-minoritaire, ce qui n'empêche pas le chef de l'État d'aller encore plus de l'avant, malgré le climat social extrêmement tendu. Théo Conscience est à Buenos Aires pour RFI.
Fidèle à ses promesses de campagne, Javier Milei a immédiatement mis en route son plan tronçonneuse afin de réduire l'État argentin à sa portion congrue. Un nombre de ministères divisés par 2, des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires supprimés, une réduction drastique des aides publiques à l'alimentation, au transport et le gel des chantiers publics lui ont permis en moins de 2 mois de remettre de l'ordre dans les comptes publics et même de dégager un excédent budgétaire en janvier et en février. Le président argentin peut aussi se targuer d'avoir fait baisser l'inflation de 25% en décembre à 13% le mois dernier et d'avoir jusqu'ici réussi à stabiliser le peso argentin face au dollar. Mais à quel prix, s'interrogent ses détracteurs ? La thérapie de choc du gouvernement a commencé par une dévaluation de 54% du peso et s'est accompagnée d'une perte de pouvoir d'achat de 18% en moins de 3 mois qui pèse lourdement sur le budget d'une classe moyenne de plus en plus paupérisée. Selon l'Université catholique argentine, depuis l'élection de Javier Milei, 3,5 millions d'Argentins sont tombés dans la pauvreté qui concerne désormais 57% de la population. Théo Conscience, Buenos Aires. RFI.
RFI, il est 14h19 ici à Paris. On retrouve Marine de la Moissonnière avec cette affaire qui fait la une au Pérou. La présidente Dina Boluarte est soupçonnée d'enrichissement illicite.
Oui, tout est parti d'un reportage du site La Ancerona qui a publié des photos de Dina Boluarte portant des montres de la marque Rolex, des montres de luxe donc lors d'activités officielles alors qu'elle était ministre en 2021 et 2022, des montres qu'elle n'utilise plus depuis décembre 2022, soit depuis qu'elle est devenue présidente présidente du Pérou fait remarquer, El Comercio. Hier, le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour des soupçons d'enrichissement illicite et de non-déclaration d'utilisation de montres Rolex, comme l'explique La Repubblica. On ne sait pas si Dina Boluarte a bien mentionné ces objets dans la déclaration de patrimoine qu'elle a dû remplir, comme doit le faire tout fonctionnaire.
Dina Boluarte qui répond à ces accusations, c'était lors d'une conférence de presse.
Ce que je tiens à dire, c'est que j'avais les mains propres quand je suis entrée au palais du gouvernement et que ce sera encore le cas quand j'en sortirai, comme je l'ai promis au peuple péruvien. Mais ne pas être corrompu, c'est plus qu'une promesse. Ça fait partie de mon ADN. Il faut que les Péruviens sachent que je travaille depuis que j'ai 18 ans. Tout ce que je possède est le fruit de mon labeur, de mes efforts. On parle ici d'une vieille montre que je porte très rarement et je ne compte pas m'exprimer davantage sur des sujets qui relèvent de ma vie privée.
Voilà la réponse de Dina Boluarte que remettent en cause les médias péruviens.
Oui, La Repubblica donne la parole à un expert qui estime que la montre de Dina Boluarte, ce n'est pas un vieux modèle. Davidson, représentant de Peru Watches, explique également que lorsque l'on achète une telle montre, un bijou, dit-il, on reçoit forcément une facture. Et c'est cette preuve que la présidente péruvienne va devoir désormais fournir à la justice.
La revue de presse de Marine de la Moissonnière. Merci Marine. C'est un nouveau signe concret, s'il fallait encore le prouver, du réchauffement climatique que connaît la Terre. Ce dimanche, au Brésil, un nouveau record de température ressentie a été battu, pas moins de 62,3 degrés Celsius ressenti, qui comprend donc le mercure sur le thermomètre et l'humidité de l'air. À Rio de Janeiro, sur les conséquences pour l'homme de telle chaleur, je vous propose d'écouter Davide Faranda, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
En fait, plus la température est ressentie et élevée, plus on a du mal à effectuer la transpiration ou même on peut être empêché à faire ces processus physiques fondamentaux pour notre santé. Donc, en gros, le corps ne peut pas rééquilibrer sa température intérieure avec la température extérieure. Et si on dépasse des seuils limites comme celles qu'on a dépassées au Brésil, on peut tout complètement arrêter la transpiration et ça peut causer même la mort de l'individu. Donc c'est une quantité qui est très importante, quantité seuil qui définit notre possibilité de transpirer face à des températures élevées.
Le climatologue Davide Faranda au micro de Paul Inglaise. Une actualité qui résonne avec notre dossier du jour. On reste d'ailleurs à Rio de Janeiro, où loin des plages les plus touristiques, sur les terrasses des maisons des favelas, les femmes optent pour de nouveaux maillots de bain. Fini le tissu du bikini, place au scotch noir isolant pour une marque de bronzage bien nette. Notre correspondante Sarah Cozzolino s'est rendue dans le complexe de favelas de Maré à Rio de Janeiro.
Dans la salle d'attente, les clientes de Bruna Bronze y viennent de loin pour faire leur marque de bronzage, la marquinha comme on l'appelle au Brésil. Jennifer a fait une heure de route depuis la ville de Niterói pour venir.
J'adore faire ma marque de bronzage chez elle, c'est la meilleure. On dirait une lumière de néon tellement c'est net. Ce genre de bronzage, on ne peut pas l'atteindre en allant juste à la plage. Pour en avoir une si nette, il faut venir sur la terrasse de bronzage.
Marina habite la favela de Parque Union, juste à côté du salon de Bruna. Corps ultra-athlétique, chirurgie esthétique de la poitrine, de la bouche, du nez. Son image est très importante pour elle. Elle vient quasiment tous les mois depuis 2 ans quand elle a besoin d'une dose de confiance en elle.
Je me sens beaucoup plus belle. Mon estime de moi est reboostée. Quand je rentre à la maison, je me vois dans le miroir et je me trouve canon. Parce que le bronzage cache les imperfections. Ma peau est super belle.
Ce type de bronzage obtenu grâce à l'application de scotch isolant sur la peau a été rendu populaire par la chanteuse de pop et funk brésilienne Anitta. Dans son clip Vai Malandra, elle défile sur une terrasse de bronzage dans une favela. Raquel est avocate criminaliste, elle vient de la banlieue de Rio pour faire sa marquinha.
Je pense que c'est encore discriminé, c'est souvent vu comme une marque d'appartenance à la favela. Mais c'est en pleine expansion. J'ai des amis de quartiers riches ou de banlieue qui sont en train d'ouvrir leur propre terrasse et de fabriquer les bikinis en scotch.
Je vais commencer le montage de son bikini, de la forme et de la taille qu'elle souhaite. C'est en fonction du goût de la cliente.
Après 4 ans à fabriquer des bikinis quasiment tous les jours, Bruna a le coup de main. Il lui faut 5 minutes pour confectionner un maillot de bain en scotch quand la cliente a déjà une marque et jusqu'à 12 minutes sans marque de bronzage. Sur la terrasse, les clientes posent derrière un grand poster d'une plage paradisiaque, mais elles sont bien entourées de béton dans le plus grand complexe de favela de Rio. À 10h, il fait déjà plus de 35 degrés sur la terrasse de Bruna, qui offre de l'eau fraîche, des jus et des sorbets à ses clientes.
Elle nous laisse un petit seau ici qu'on remplit avec le tuyau d'arrosage pour pouvoir se mouiller un peu quand le soleil tape si fort. On se mouille les pieds, le visage. Ce qui est le plus dérangeant, c'est la chaleur.
Selon beaucoup de dermatologues, le bronzage au scotch est dangereux pour la santé car les professionnelles ne sont pas toutes rigoureuses dans l'application de crème solaire ou de produits de qualité sur la peau de leurs clientes. C'est la raison pour laquelle Bruna est fière d'afficher ses 60 diplômes et un trophée de scotch d'or pour récompenser la qualité de son travail.
Je n'ai pas reçu l'aide de mon père, de ma mère, de mon mari, de personne. Au début, je n'avais qu'un rêve, une chaise de plage, c'est tout. Et mon plus grand souhait, c'était que mon travail soit reconnu. Que les personnes puissent dire « Regardez, c'est ça le bronzage de Bruna et c'est la meilleure !»
Grâce à son salon, Bruna a pu emprunter de l'argent pour s'acheter une voiture et faire construire sa propre maison. Elle avait commencé pendant la pandémie et cette année, elle ouvrira sa deuxième terrasse de bronzage. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
RFI 14h26, ici à Paris, votre rendez-vous habituel du journal des territoires français de l'océan Indien. Ce mardi avec Tiziana Marone et à la une, la Guyane et une mobilisation de la fonction publique en grève pour réclamer de meilleures rémunérations.
Oui, Nemo, un mouvement national relayé en Guyane comme dans les départements des Antilles. Aujourd'hui, les salles de classe ont été désertées par les professeurs qui se mobilisent pour réclamer une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement ne passent pas, explique Dario Anatole, secrétaire général du syndicat enseignant STG-UTG, joint par Génial Atunmani de Guyane à la Première.
L'État nous a annoncé vouloir faire 10 milliards d'économies et que sur ces 10 milliards, il y a par exemple 700 millions pour le domaine de l'éducation. Et donc, évidemment, nous, on s'insurge contre ça, puisque si vous regardez de l'autre côté, le gouvernement ou l'État arrive à trouver des milliards pour des choses comme aller faire la guerre sur des territoires où on n'a pas d'intérêt et au contraire, qui nous coûte cher justement au niveau de l'inflation, puisqu'on nous dit que toute cette augmentation de prix général que l'on voit partout, elle est due à la guerre en Ukraine et c'est la faute à Poutine.
Le personnel de la fonction publique tout aussi remonté aux Antilles. À Martinique, les infirmiers libéraux en grève, comme leurs collègues de l'Hexagone, ils se mobilisent pour revendiquer la revalorisation des tarifs de soins. La dernière augmentation de 25 centimes en janvier est jugée insuffisante. À Martinique, de nombreux professionnels ont abandonné le métier, confirme Marie-Noëlle Delaney du syndicat Convergence Infirmiers de Martinique. Elle est au micro de Christine Cupit de Martinique La Première.
On assiste à un turnover important, des arrêts, des abandons, des burn-out, des faillites. Il y a une perte de sens du métier. On constate par exemple que des collègues qui se sont installés il y a 2 ans raccrochent. Ils revendent la clientèle, retournent à l'hôpital. Le syndicat Convergence Infirmier au national a lancé une étude qui montre que 56% des participants pensent à laisser la profession dans les 5 ans. En Martinique, nous étions en 2020 1600 infirmiers libéraux. En 2023, nous ne sommes plus que 1200.
En bref, autre grogne, celle de la filière sucre en Guadeloupe, la campagne sucrière 2024 définitivement fermée. Une décision prise hier soir par l'IGUACAN pour éviter toute confrontation entre les acteurs de la filière. C'est ce qu'a expliqué le président de l'interprofession, Bruno Watcher, pointe du doigt le collectif rejoint par 4 syndicats et la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe qui a décidé de paralyser l'activité. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Tiziana Marone pour le journal. journal des territoires français de l'océan Indien. Merci Tiziana, et c'est ainsi également que se referme cette demi-heure consacrée à l'actualité en Haïti et aux Amériques. Vous la retrouvez évidemment sur notre application RFI Pure Radio et sur notre site internet www.rfi.fr. Le prochain rendez-vous de l'information sur la radio du monde, ce sera dans une demi-heure. 8 milliards.